Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix contre l'impunité et aussi le démantèlement de la Cour pénale internationale. L'ONG se prononce justement à l'occasion de la Journée internationale de la justice célébrée ce vendredi 17 juillet dans le monde. Détail dans un instant. Et puis des policiers traduits en justice par des médecins à Kinshasa. Ces blouses blanches, membres du syndicat Libre des médecins, ont déposé une plainte devant l'auditorat supérieur militaire. Ils accusent ces agents de l'ordre de violences policières exercées contre eux lors de leur sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Un mot aussi sur les embouteillages dans ce journal. Et direction Lubumbashi, où une brigade de la Commission nationale de prévention routière est lancée pour lutter contre ce phénomène. Vous suivrez d'ailleurs les chefs des divisions techniques de la SNPR au Katanga. Vous avez compris, Christophe Lia est l'invité de notre journal. Mais sachez d'abord que les mécanismes conjoints chargés de surveiller le respect de la trêve entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 affichent désormais complet. Pour preuve, trois officiers de FARDC ont rejoint cette semaine Goma à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO. Objectif, intégrer cette structure appelée à se déployer prochainement sur le terrain alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones du nord et du sud Kivu. Les détails avec Martial Papimukeba.
Trois officiers de FARDC ont rejoint les mécanismes conjoints chargés de vérifier le respect du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23. Arrivés lundi à Goma, à bord d'un hélicoptère de la MONUSCO, deux lieutenants-colonels et un major de FARDC complètent désormais la représentation du gouvernement congolais au sein de cette structure. Le mécanisme réunit désormais trois officiers de FARDC, trois officiers de l'AFC M23, trois experts de la MONUSCO qui apportent également un appui logistique au dispositif, ainsi que des représentants par pays membre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Selon nos sources, une première mission de vérification devrait être déployée dès la semaine prochaine dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Créé dans le cadre du processus de Doha, ce mécanisme a pour mission de surveiller l'application du cessez-le-feu, d'enquêter sur les violations signalées et d'en rendre compte. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio de la paix. Comme je le disais tout à l'heure en titre, le monde célèbre ce vendredi 17 juillet la Journée internationale de la justice. À cette occasion, la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix profite de la tribune pour dire non à l'impunité et non au démantèlement de la Cour pénale internationale CPI. Selon son responsable, cette journée intervient alors que certains acteurs politiques à travers le monde se mobilisent pour fragiliser cette institution créée à Rome il y a 28 ans. Parmi les grands défis qui nécessitent encore l'expertise de la Cour, Monseigneur André-Marie Kito Massimango évoque la situation de la République démocratique du Congo qui, depuis plus de 3 décennies, connaît des violences armées aux conséquences dramatiques. Massacres, viols, enrôlement forcé d'enfants, villages entiers rasés. Face à ces crimes, Monseigneur André-Marie Kito estime que la CPI demeure le dernier espoir de justice pour les victimes congolaises et celles du monde entier. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Il faudra dire que les raisons pour lesquelles on avait fait le renvoi de la situation de la RDC à la Cour pénale internationale continuent toujours à se justifier en ce jour. En l'occurrence, il y a prolifération de crimes internationaux avec les différents cycles de guerre qui sont déplorés en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous comprenons également que la justice congolaise n'a pas encore la capacité nécessaire à organiser la répression des crimes internationaux, tels que les victimes et les communautés affectées. Mais il y a également l'influence politique à tous les niveaux par rapport à la situation de la justice pénale internationale. Voilà, pour l'ensemble de ces raisons, nous soutenons que la coopération entre la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo puisse continuer de manière à donner réponse aux préoccupations des victimes et des communautés.
À l'occasion justement de cette journée internationale de la justice, des défenseurs de droits humains ont participé à un atelier de renforcement des capacités organisé à Beni, au Nord Kivu. Cette session de deux jours, initiée par le Centre d'études pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, CEPADO, visait à mieux faire connaître les mécanismes de la justice internationale et leur rôle dans la lutte contre l'impunité. Les organisateurs estiment que ces instruments peuvent contribuer à renforcer les efforts de justice pour les victimes des graves violations des droits humains commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Omar Kavota, coordonnateur national des CEPADO, explique au micro de Marc Marofimbo.
À l'occasion de cette journée internationale de la justice internationale, observée sous le thème « La justice, une affaire de tous », nous considérons que c'est une opportunité pour rappeler la communauté internationale dans son ensemble qu'il est temps que la justice soit une affaire de tous et alors de tous les Congolais. Parce que au regard de ce qui s'observe dans le province de l'Est, il faut qu'on arrive à y mettre terme. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, auxquels on fait face dans le province de l'Est, au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, œuvre de la coalition AFC-M23-RDF, œuvre des terroristes ADF-MTM, ceci doit s'arrêter. Il est temps que la CPI vienne au chevet de la justice congolaise pour accompagner les efforts de la justice de la RDC afin de mettre terme à cette impunité. Au-delà de la CPI, la justice congolaise doit s'activer pour documenter les faits, pour interpeller le moment venu ou à Tahiti-il les auteurs de différents crimes. Et nous pensons que c'est possible. Il y a l'espoir pour que la justice soit une affaire de tous.
Et puis, sommet mondial sur la paix à Luanda en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, plaide pour le retour de la paix en RDC. C'était hier jeudi à la troisième édition de l'initiative mondiale. Ces assises ont pour thème un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international. Détail avec Magloire Landou Mayemba.
Avant l'ouverture de travaux, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais João Lourenço hôte de l'événement. À travers sa participation à ces assises, la République démocratique du Congo entend insister sur la responsabilité de chacun afin que la paix ne reste pas une promesse suspendue, mais se traduise plutôt par des actes concrets et vérifiables. Ce sommet de Luanda, qui se tient du 16 au 17 juillet 2026, a pour objectif de promouvoir la résolution pacifique de conflits mondiaux et mettre en avant le rôle de la femme, de la jeunesse et du sport dans la consolidation de la paix, mais aussi insister sur la responsabilité collective pour que la paix ne reste pas une promesse mais en devienne une réalité concrète et vérifiable.
Le syndicat libre des médecins Silimed a déposé jeudi 16 juillet une plainte devant l'auditorat supérieur militaire à la suite des violences policières exercées contre des médecins qui organisaient un sit-in devant l'immeuble du gouvernement abritant le ministère de la Santé à Kinshasa. À Radio Kapi, le secrétaire général de cette organisation syndicale, Dr André Kasongo, explique qu'à travers cette démarche, ils veulent que les médecins victimes de ces traitements dégradants obtiennent justice. Il regrette également que des policiers aient bousculé et pris à partie, voire insulté et agressé physiquement ces blouses blanches qui réclamaient leurs droits. Dr André Kasongo téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Comme vous le savez, les médecins sont en train de réclamer leurs droits. Ils sont partis dans leur ministère pour que leurs droits soient remis en place. Mais curieusement, hier matin, en se réveillant, ils ont été aspergés de l'eau, tabassés par la police commis au ministère de la Santé. Puisqu'ils étaient partis chez le ministre de la Santé. Tabassés, injuriés. Cette humiliation nous a pas laissé indifférents. Nous sommes venus saisir l'auditorat supérieur. Cette flagrance envers l'élite de la nation qui travaille sous stress d'Ebola, qui est victime, il y a même de morts avec l'Ebola, qui est en train de réclamer ses droits, qui soit tabassé comme un chien, lynché aux yeux aussi de tout le monde par la police commis au ministère de la Santé. Ils étaient bel et bien au ministère de la Santé, ils ont passé une nuit par refus de leur recevoir par le ministre de la Santé. Nous déposons la plainte à l'auditorat contre le policier. Au cas où il s'avérait qu'il y a un commanditaire, nous allons le poursuivre. C'est-à-dire dans ce pays, le droit existe.
Ce dépôt de plainte intervient dans un contexte de tension sociale marqué par la grève des médecins qui réclament les paiements d'arriérés des salaires, la mécanisation et l'alignement sur les listes de paye des milliers de médecins et l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation salariale. Ce journal se poursuit au Nord Kivu où les dispositifs de lavage des mains ont été renforcés depuis le début de la semaine à l'entrée principale du marché central Kilokwa dans la ville de Beni. Sur place, les services de sécurité appuyés par des relais communautaires sensibilisent les usagers au respect strict des mesures préventives. Les vendeurs, acheteurs et autres visiteurs sont notamment appelés à se laver systématiquement les mains à l'entrée et à la sortie du marché, mais aussi à éviter les poignées des mains et autres contacts physiques susceptibles de favoriser la propagation de la maladie. Marc Marofimbo, reportage.
Protection gouvernement lobby à Sengen Nayo, à l'Ignoku Fate, à Talakayo.
C'est le message relayé à la longueur de la journée par les relais communautaires et les agents de sécurité postés au niveau des dispositifs de lavage de mains installés à l'entrée principale du marché central de Kilokwa de Beni. Sur ce site commercial, tout accès au marché est désormais conditionné par les lavages systématiques de mains à l'eau et au savon, une mesure préventive mise en place dans le cadre de lutte contre la maladie à virus Ebola. Toutefois, les gestionnaires du dispositif indiquent de ne pas disposer de thermoflash pour la prise de température des usagers. Cette initiative est saluée par plusieurs habitants et commerçants qui estiment qu'elle contribue à renforcer la prévention et devrait être étendue à d'autres marchés de la ville.
C'est une bonne initiative pour nous protéger de cette maladie. Je ne vois rien de mal dans cette mesure. Je me suis lavé les mains et je me protège contre la propagation de cette maladie. Il faut que cette même mesure soit observée ainsi qu'à ma vie, tout comme pour ceux qui partent à Ouitcha.
Au petit marché de Mayango, c'est situé à proximité du marché central. Les commerçants déplorent cependant l'absence de dispositifs similaires. Malgré cette situation, les relais communautaires poursuivent leur travail de sensibilisation à l'aide des mégaphones, évitant les vendeurs et les clients au respect des mesures barrières pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Santé encore à Ituri, deux projets de soutien communautaire en faveur des personnes vivant avec le VIH ont été lancés ce jeudi à Bunia dans un contexte marqué par la résurgence de la maladie à virus Ebola. Mis en œuvre avec l'appui d'ONU SIDA, ces projets seront exécutés pendant 2 mois par l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH, UCOP+, et l'ONG AORS. Ils couvrent 11 zones de santé d'Irumu, Djougou et Mambasa, parmi lesquels Bunia, Nyakunde, Rwampara, Nizi, Mongwalu, Komanda et Mambasa, considérés comme les plus exposés à l'épidémie d'Ebola. Marcel Kizabiamungu a assisté au lancement de ces deux projets. Voici son reportage.
Les interventions ciblent particulièrement les personnes vivant avec le VIH, notamment les femmes enceintes et les enfants. L'objectif est d'assurer la continuité des soins et de réduire le risque de vulnérabilité de ces personnes face à la flambée d'Ebola. Selon Marie-Marguerite Molnar-Ako, représentante du pays de l'UNICIDA en République démocratique du Congo, ces initiatives visent à protéger les personnes séropositives contre de nouvelles menaces sanitaires tout en garantissant leur accès régulier liés au traitement d'antirétroviraux. Dans le cadre de ces projets, des séances de sensibilisation aux mesures de prévention contre Ebola seront organisées au niveau communautaire. La distribution à domicile de médicaments antirétroviraux est également prévue afin de limiter le déplacement des bénéficiaires et de maintenir leur adhésion au traitement. D'après les données sanitaires disponibles, l'Ituri compte près de 35 000 personnes vivant avec le VIH, dont environ 24 000 sont actuellement sous traitement d'antirétroviraux. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabwankoubi, est mis en cause dans une affaire portant sur un montant estimé à 840 millions de francs congolais. Dans un arrêt provisoire rendu public le 14 juillet, la Cour des comptes lui reproche d'avoir autorisé le transfert de ses fonds publics vers les comptes privés du député national Amissi Makutano. Estimant que cette opération pourrait engager sa responsabilité, la Cour lui accorde toutefois, ainsi qu'aux autres personnes concernées, un délai d'1 mois pour justifier l'utilisation de cet argent. Florence Kizalunga pour les détails.
La Cour des comptes siégeant en matière de gestion des faits a déclaré à titre provisoire et solidairement Moïse Moussa Kabankoubi, gouverneur du Maniema, et Bienvenu Dingalo Massima, ordonnateur délégué, comptable de faits dans le dossier du transfert présumé irrégulier de 840 millions de francs congolais. Selon la décision de la Cour, les deux responsables sont appelés à répondre de la gestion de ces fonds publics dont les transferts vers un compte privé soulèvent des interrogations quant à sa régularité. En revanche, la Cour a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir une gestion des faits à l'encontre du ministre provincial de Finances, Ali Kiamasa Willy. Elle a donc prononcé un non-lieu en sa faveur et l'a renvoyé de toute fin de poursuite. Les deux responsables mis en cause disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour produire un compte unique, exact, régulier et détaillé, retraçant l'utilisation de 840 millions de francs congolais. Ils devront également fournir l'ensemble des pièces justifiées relative aux dépenses effectuées afin de démontrer la régularité de la gestion de ces fonds. À défaut de présenter les documents requis dans les délais impartis, ils s'exposeront aux sanctions prévues par la loi pour défaut de production des comptes avant que la Cour des comptes ne rende sa décision définitive. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Éclosion des activités économiques dans la commune de Lukalaba. Nous sommes au Kasaï oriental. À la base, l'électrification de cette contrée, située à plus ou moins 50 km de Mbujimayi depuis quelques jours. Du coup, des maisons de vente de vivres frais, de l'eau froide en sachet et des ateliers de soudure se multiplient et donnent un nouveau souffle à cette entité, longtemps plongée dans l'obscurité. À l'origine de cette avancée technologique, la construction de la centrale photovoltaïque de près de 2 MW à Lukalaba depuis quelques mois. Des explications avec Esther Ndalafina.
À Lukalaba, la lumière n'a pas seulement illuminé les quelques 150 maisons de cette commune. Elle a relancé l'économie, renforcé la sécurité et redonné espoir aux habitants. Dans les rues, les ateliers de soudure tournent désormais à plein régime, affirme Norbert Mbaya, soudeur à l'atelier AKL.
Nous faisons l'ajustage et soudure. L'énergie électrique nous aide beaucoup. Nous sommes contents. On commence à fabriquer les portails, les portes et les fenêtres. J'apprends déjà aux jeunes à couper et souder les mitrailles.
Même constat du côté des vendeurs d'eau, dont l'activité a pris une nouvelle dimension grâce à l'énergie électrique. Mike Kalala, commerçant de vivres frais, profite lui aussi de cette transformation. Les frigos fonctionnent, permettant de conserver les produits plus longtemps.
Chez moi ici, l'énergie électrique nous aide beaucoup. On avait des difficultés à boire l'eau froide. On l'a trouvé qu'en Mbujimayi, que lorsqu'on voyageait. Maintenant, tout est possible. Nous avons tous les vivres frais.
Au-delà de l'économie, l'électrification a également eu un impact sur la sécurité. Freddy Mutombo, président de la société civile de Lukalaba, témoigne d'une baisse sensible de cas de criminalité.
La lumière a apporté maintenant diminution de vols sur la cité, puisque quand il faisait noir, on volait beaucoup.
Signalons qu'à cette phase d'essai, les abonnés utilisent l'énergie gratuitement, donc sans aucun frais. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président de la Commission de l'Union africaine, UA, a effectué jeudi 16 juillet 2026 une visite de travail au Burkina Faso. Mahamoud Ali Youssouf, qui était auparavant passé par Bamako, a plaidé auprès des autorités de transition burkinabé pour une poursuite de la coopération avec l'UA et une amélioration des relations entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'UA a appelé à l'ouverture de l'espace politique, à l'organisation des élections et à la fin du processus politique en cours.
L'invité.
Dans le cadre de la lutte contre les embouteillages dans la ville de Lubumbashi, la Commission nationale de prévention routière CNPR a déployé plusieurs agents sur différentes artères afin de réguler la circulation. Ces agents sensibilisent aussi les usagers de la route. Le chef des divisions techniques de la CNPR dans le Haut-Katanga est notre invité. Christophe Lia s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Christophe Lia, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous avons constaté, depuis quelques mois, des agents de la CNPR sur les terrains, notamment ici au centre-ville de Lubumbashi, en train de réguler la circulation.
Qu'est-ce qu'ils font exactement?
C'est depuis fin novembre et le mois de décembre que, pendant les festivités, la CNPR avait constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages et d'encombrements sur nos artères. Alors, la direction provinciale, sous la houlette du directeur provincial, le professeur Moïse Bomana, avait décidé de déployer les agents ou les inspecteurs routiers de la CNPR pour réguler la circulation et lutter contre les embouteillages. C'était ça vraiment l'objectif primordial de ces déploiements-là. Et après les festivités, nous avons constaté que c'était important de rester encore sur la voie publique pour la régulation de la circulation.
Et si ces agents-là régulent la circulation, et ils font aussi quoi? Ils donnent des conseils, sensibilisent les usagers de la route.
On ne régule pas seulement la circulation. On sensibilise aussi ces usagers de la route. Nous les appelons au civisme routier. Parce que si on ne les sensibilise pas, nous allons continuer à nous casser la tête. Parce que s'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes les règles de circulation, s'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes la signalisation routière, nous aurons encore beaucoup plus de problèmes. C'est pourquoi nos inspecteurs sont en train de réguler en même temps de sensibiliser. Parce que là, au niveau de la direction, nous avons un service qui est dénommé service de prévention et sensibilisation routière.
Vous êtes expert en la matière. Qu'est-ce qui est à la base des embouteillages récurrents dans la ville de Lubumbashi?
D'abord, la ville de Lubumbashi, c'est une ville qui est maintenant dans une grande expansion. Ça s'élargit. Des deux, vous allez voir que la ville de Lubumbashi a maintenant un grand charroi automobile, hein, très important, un grand flux de véhicules. Et surtout que vous allez voir qu'il y a mettra les transports privés qui est devenu très nombreux. Alors, comme les histoires de velléités ici des transports en commun, chacun veut se procurer un véhicule. Quand les gens se procurent un véhicule, c'est chose qu'on ne peut pas interdire à la population. Alors, ce nombre-là accru des chariots automobiles est mettra à la base de beaucoup d'embouteillages, surtout pendant les heures de pointe. Hein. Et puis, vous allez voir que la ville de Lubumbashi, c'est une ville qui est construit autour du centre-ville. Donc, toutes les activités de la ville se font au niveau du centre-ville. Quand tout le monde se réveille le matin, la direction, c'est vers le centre-ville. Quand tout le monde va vers le centre-ville le matin, c'est un grand flux, vraiment. Alors, nous, Saint-Père, en tant que service de prévention, nous dévançons. Déjà, vers 6h, 6h30, on déploie déjà les agents, surtout le matin, dans des points chauds, hein, pour réguler la circulation.
Mais les soirs, il y a aussi l'indiscipline de certains conducteurs.
Oui, il y a l'indiscipline. Parce que parfois, vous allez voir que la majorité de nos routes, ce sont des routes maintenant à des voies à sens unique. Mais vous trouvez qu'il y a embouteillage sur les voies à sens unique. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tout le monde veut passer au même moment. Tout le monde veut arriver avant. Il y a aussi l'étroitesse de nos routes. Si le gouvernement peut nous aider aussi à ajouter d'autres voies sur les routes que nous avons, en tout cas, ça nous fera encore beaucoup plus du bien pour la circulation.
Et les agents qui sont déployés sur le terrain, ont-ils quand même un minimum de notions sur les codes de la route?
La CNPR ne peut pas déployer les agents sur terrain qui ne sont pas formés. Chez nous, dans le Haut-Katanga, la formation, en tout cas, c'est un principe. On peut pas mettre un agent sur la route qui n'a pas des notions du code de la route. Il va faire quoi? Il y a un danger. Nous les apprenons la réglementation routière, la signalisation routière, la déontologie, même la régulation du trafic routier. Nous les apprenons ça pour leur permettre d'être efficaces sur la route. C'est pourquoi vous constatez que tout le monde est en train de jeter le fleur aux inspecteurs routiers de la CNPR qu'ils sont efficaces sur la route.
Monsieur Christophe Lia, je vous dis merci.
Merci beaucoup, monsieur Paulin.
C'était donc notre invité Christophe Lia, chef de division technique de la CNPR dans les Haut-Katanga, qui s'entretenait avec Paulin Munanga. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, qui a connu la supervision éditoriale de Lievin Bouinga Vubu et la coordination de Jean-Désiré Kanyama. La mise en onde est sécurité est assurée par Jean-Claude Tchala Mwanamakengonsoalou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.